France en liberté. Une émission pour déménager la biologie. Voilà. La biologie s'occupe de nous, nous allons nous occuper de la biologie. Car en observant de plus près la vie des animaux qui nous accompagnent sur cette terre, certaines notions apparemment scientifiques paraissent incongrues. Il semble que l'on ait toujours cherché à tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la nature. Et la science se confond avec une histoire beaucoup plus idéologique qu'on ne l'admet souvent. C'est ce dont nous allons parler entre 18h et 19h30 sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Science en liberté, une émission animée depuis l'Anjou par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. Bonjour à vous, je suis Thierry Laudet pour animer une émission où nous nous amusons à questionner la biologie pendant 1h30. Ravi de vous retrouver pour cette émission.
Sa supposée royauté du col à la peau. Il est vrai qu'il a fière allure avec sa crinière qui flotte au vent et son calme olympien. Et cependant, dès qu'il s'attaque à un gnou ou à un zèbre, toute la sauvagerie de la savane entre en lice. Et que dire de l'ampleur de son terrible rugissement quand il enflamme l'air nocturne de la plaine? La superbe musculature du lion impose le respect, et il est souvent considéré comme le prédateur suprême. Et cependant, le lion ne répond que très mal à la prétendue loi de la jungle, car non seulement le lion sait réduire ses batailles, non seulement c'est un adepte d'une éducation patiente, mais loin d'un monarque héréditaire, il reste surtout un démocrate convaincu. Revenons. La vie sociale des animaux est généralement conçue comme une organisation de troupes querelleuses et despotiques au service d'un tyrannique monarque. Et cependant, les publications scientifiques racontent une toute autre histoire. Les groupes d'animaux forment bien davantage des communautés libres que de bandes armées sous la dictature d'un autocrate. Il y eut bien sûr des auteurs pour nommer guerre des échauffourées simiesques à laquelle se livraient des agressifs chimpanzés. Toutefois, loin d'une bataille organisée, il ne s'agissait encore que de méchantes bagarres entre rivaux intraitables. Certes, ces démêlés laissent parfois quelques blessures et peuvent même conduire à des morts prématurées à l'intérieur d'une espèce. Mais la plupart des disputes se gardent de s'aventurer trop loin et d'âpres négociations les entourent généralement. En fait, la majorité des espèces animales évitent les chicanes et leurs quelques affrontements collectifs n'atteignent jamais la barbarie guerrière des humains. N'empêche, effectivement, ces querelles existent et témoignent parfois de la difficulté de la vie sociale. Que dire aussi de la prédation qui déchire dans le sang et la fureur les proies innocentes? Toute l'apparence cruelle de cette interaction écologique condense cette struggle for life à laquelle on veut résumer la nature. Pourtant, le prédateur n'a aucune rancœur, aucune agressivité contre la proie qu'il saisit. La mésange bleue, si vorace de chenilles, ne développe aucune méchanceté intrinsèque à dévorer ses proies. Ni le hérisson ne montre aucune fureur contre les limaces qui l'engloutit. La baleine qui engouffre des millions de crevettes ne manifeste aucune animosité, et le petit lémur qui se détecte d'insectes ne cherche pas davantage à être cruel. La prédation est juste une interaction naturelle qui, comme les autres, structure les relations écologiques et l'évolution de notre planète. Mais voilà. Le lion est un terrible, un redoutable prédateur. Des centaines de kilos de muscles s'agrippent à un zèbre, lacèrent un buffle et cherchent à mettre à terre des girafes, des hippopotames et même parfois des éléphants. Le lion s'avère un terrible prédateur et nourrit sa famille de la chair des autres. Ce n'est pas une guerre sanglante et la prédation dispose aussi d'un côté positif. En tuant ce qui pour lui est un immense lapin myxomateux, le petit putois fait œuvre sanitaire, réduisant la virulence de l'épidémie qui décime les lagomorphes, bien qu'il préfère manger des campagnols distraits, les rats malades et les grenouilles étourdies. Mais le lion expose lui une autre tactique, car ses coalitions sociales révèlent une organisation complexe et fascinante. C'est le seul félin à vivre en petit groupe, et les familles de lions ne disposent ni d'une dictatoriale monarchie, ni même d'une structure hiérarchisée. Mais en dépit de leur colère, ils forment des groupes égalitaristes qui répondent bien plutôt à une subtile socio-écologie. Situés au sommet des réseaux trophiques, nous allons découvrir que les lions se coalisent en communautés égalitaires et librement choisies. Ce magnifique prédateur, qui accompagne depuis si longtemps l'être humain dans son évolution, fait partie intégrante de la vie de la savane. Et comme nous sommes sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, nous allons nous attarder à discuter de toutes les subtilités du pacte que les lions ont passé entre eux et envers la nature. N'est-il pas élégant que les plus grands lions arborent leur crinière noire comme un drapeau ?
Vous écoutiez The Poet and the Prophet par les Village Stampers. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, pour disséquer le pacte des lions. Nous voilà donc partis à la découverte d'un animal fascinant, qui pourtant nous est si familier qu'on imagine mal ce qu'il pourrait encore nous révéler dans la nature. Thierry, tu as mentionné que les lions avaient accompagné l'évolution des êtres humains, mais il s'agit d'abord d'une espèce africaine et d'un des plus grands prédateurs actuels.
Alors sur la planète, en effet, s'il y en a, l'humain est apparu dans une écologie qui est propre aux mammifères. Et donc toutes les espèces contemporaines ont façonné son évolution. Notre écosystème n'est évidemment plus celui des tyrannosaures, mais c'est celui des bisons, des loups, des éléphants et des baleines. L'écologie des insectes et leurs prédateurs, comme les grenouilles ou les carpes, n'existerait pas non plus sans les martins-pêcheurs, sans les brochets ou sans les loutres. L'évolution est avant tout écologique et se construit dans de délicats équilibres où chacun dépend des autres et les autres de chacun. Les lions font donc aussi partie de notre histoire évolutive.
Les grands félins sont donc aussi vieux que l'humain, mais plusieurs espèces ont cohabité dans notre préhistoire.
Oui, en effet, les plus vieux fossiles de lions ont été exhumés en Tanzanie et dateraient de plus de 3 millions d'années, c'est-à-dire que c'est l'époque de Lucie et des Australopithèques. Mais les lions ancestraux avaient aussi pour terrain de chasse les étendues de l'hémisphère nord, où ils capturaient des rennes, des chevaux et des aurochs. Alors ce sont des espèces qui étaient très proches du lion moderne, comme par exemple le lion des cavernes. Les comparaisons ADN montrent que tous les lions actuels descendent des lions des cavernes. Mais de nombreuses formes en Europe et en Asie sont qualifiées comme de simples sous-espèces de lions apparus en gros avant la glaciation de Mindel il y a 650 000 ans. Ces lions étaient plus grands qu'aujourd'hui et vivaient sur les mêmes territoires que les premiers Homo erectus, ceux qui ont découvert le feu, que les premiers Néandertalis, et puis enfin d'Homo sapiens il y a à peu près 100 000 ans, qui va progressivement rencontrer le lion moderne, après la disparition de toutes les autres formes ancestrales. Depuis lors, les populations de lions ont décliné partout dans le monde, et donc aujourd'hui elles sont restreintes dans les réserves d'Afrique et un peu en Asie.
Le lion n'est pas le plus grand félin. Je crois que le tigre est encore plus grand.
Oui, tu as raison, Siona. Le tigre sibérien, avec 300 kilos, reste le plus grand de tous les félins. Mais le tigre est un lion. C'est une espèce du même genre que le genre Panthera, et il s'est différencié au Pléistocène en quittant le clade des lions et des léopards. Tous ces espèces de grands félins se sont diversifiées dans des habitats distincts, et le tigre doit ses rayures à la vie dans les marais, en Asie, dans les hautes herbes, alors que le tigre, et lui, est inféodé aux habitats forestiers denses et humides, et les marais, le lion, lui, dépend des milieux ouverts où il sait capturer des proies. Le genre Panthera regroupe aujourd'hui 5 espèces, le lion, le tigre, le léopard, le jaguar et la panthère des neiges.
Et ce sont tous des grands prédateurs.
Oui, mais le plus grand prédateur terrestre, c'est l'ours blanc, qui lui fait 500 kilos.
Eh oui.
Pourtant, même si cette espèce, si certaines espèces n'engouffrent que des petites crevettes, comme le krill par exemple, le plus grand de tous les vrais prédateurs, c'est la baleine bleue, puisqu'elle a 180 tonnes, et c'est le plus grand prédateur qui n'a jamais existé sur la planète Terre. Il déloge allègrement les plus grands dinosaures.
Et cependant, on n'interroge jamais la voracité ou la cruauté de la baleine bleue. Pourquoi est-on si malveillant envers les tigres et les lions ?
Oui, ou même envers les fouines et les loups, hein, qui pourtant tous régulent le fonctionnement des écosystèmes. Je pense qu'il existe deux raisons principales qui nous font émotionnellement considérer qu'un prédateur est féroce. Tout d'abord, c'est la taille des proies à laquelle il s'attaque. Quand la proie montre une grandeur presque équivalente, ou surtout lorsque la proie est plus grosse que le prédateur, comme un buffle attaqué par un lion, l'animal paraît alors plus impitoyable qu'un rouge-gorge, qui est pourtant tout aussi sauvage quand il débusque une larve de mouche. La seconde raison, c'est que lorsque la prédation concerne des proies auxquelles nous pouvons nous identifier, c'est-à-dire reconnaître sa douleur et sa sensibilité, l'acte de tuer apparaît alors d'autant plus cruel qu'il se rapporte à nos émotions intimes, à des affects qui nous touchent immédiatement et qui sont connotés aussi par des morales religieuses ou des éthiques sociales. Alors du haut de nos émotions humaines, nous jugeons la nature comme comportant des monstruosités d'autant plus facilement que comme nous sommes souvent restreints dans nos cités urbaines, nous ne connaissons plus l'écologie des espèces. Au contraire, nous sommes complaisants face à un grand fourmilier ou un jet qui va consommer des termites ou des fourmis, ou même une hirondelle, ou encore une libellule qui attrape en vol des moucherons, qui sont regardés comme des gentils animaux. Et puis, comme on peut s'identifier au gnou blessé par le lion, eh bien, on s'imagine aussi figurer comme une proie potentielle.
Il existe d'ailleurs des lions mangeurs d'hommes.
Alors, la plupart des lions ne sautent pas sur les touristes, hein, et non. Et nombre de grands félins restent totalement indifférents aux humains. Mais la force débonnaire des ours blancs, des tigres ou des lions, ça dissimule mal, évidemment, qu'ils ont une incroyable puissance. Si on regarde froidement l'histoire des interactions entre les lions et l'humain, on s'aperçoit que les humains ont tué beaucoup plus de lions que les lions ont tué d'humains. Ils sont poussés aujourd'hui sur la voie de l'extinction. Mais il existe des tigres dangereux, comme par exemple dans les Sudan-Barnes, ou encore des lions mangeurs d'hommes, qui ont parfois défrayé la chronique. En général, les lions évitent les humains, mais la raréfaction de leurs ressources alimentaires peut aussi entraîner des attaques, notamment lors de la saison sèche, par exemple. Et comme ce sont des prédateurs exceptionnels, sûrs de leur force et opportunistes, ils profitent évidemment d'une occasion. Certaines années, au XIXe siècle, on a comptabilisé jusqu'à une trentaine d'humains tués par des lions. Mais l'histoire la plus célèbre est sûrement celle des lions de Tsavo.
Le parc national de Tsavo est l'un des plus vieux parcs du Kenya et beaucoup de touristes profitent de ses plages ensoleillées sur l'océan Indien.
En effet, mais la villégiature à Tsavo n'a pas toujours été de tout repos. Les lions sont toujours très concentrés dans les réserves. Et à l'époque, ces animaux étaient reclus dans une petite zone de forêt sèche et dégradée, la fameuse forêt de Tsavo. Les contacts avec les humains étaient rares jusqu'à la fin du 19e siècle. Le lion, avant, c'était surtout un trophée de chasse. Mais la construction du chemin de fer à travers le parc a soudain mis en face à face des lions et des ouvriers totalement désarmés.
Oui, les lions de Tsavo possédaient aussi des caractéristiques bien particulières. Ils sont très grands et très sauvages.
Alors, les lions, les populations de lions dans le parc de Tsavo vivent dans une savane broussailleuse. Et ces grands lions ont donc peu de crinières. On pense qu'ils sont presque chauves, à la fois parce qu'ils possèdent des forts taux de testostérone, et donc d'agressivité, mais que leur crinière réduite facilite aussi leur déplacement dans les broussailles épineuses du parc. Du coup, la crinière du lion ne consiste pas en une protection, mais sans doute plutôt c'est un ornement séduisant. Et d'autre part, les lions chassent dans un milieu plutôt fermé, à l'affût dans les fourrés. Ils vivent en petits groupes, ils se précipitent sur une proie qu'ils identifient donc à la toute dernière minute. Et puis ils sont très opportunistes puisqu'ils ont plus de petites proies dans ces régions-là. Ils sont habitués à des proies plutôt comme les antilopes. Ils attaquent même les babouins. Alors ce mode de chasse a entraîné des accidents, probablement à partir de confusion avec des proies qui devenaient de plus en plus rares à l'époque de la construction du chemin de fer puisqu'on prélevait quasiment toute la viande des ouvriers dans la nature.
Et oui, il y a toujours eu des accidents avec les lions et les bergers défendant leurs troupeaux. Mais Tsavo regroupait tous les éléments pour un drame.
En effet, Siona, c'est surtout l'histoire de deux lions de Tsavo qui a établi la légende des lions mangeurs d'hommes. On avait logé sur le chantier ferroviaire en 1898 des centaines d'immigrés, d'ouvriers indigènes ou indiens qui étaient logés dans un camp. Mais autour du cantonnement, en plein milieu du parc, une ville de tentes et d'exploitations agricoles produisait et stockait aussi toutes les denrées nécessaires à la vie quotidienne des ouvriers. Alors les accidents se sont multipliés. Il semble que deux lions solitaires aient décidé de chasser des proies nouvelles, qui dormaient là, libres comme l'air, visibles pour eux, les humains. Ces deux lions ont fait 140 victimes parmi les ouvriers, ouais, avant d'être abattus par une longue traque difficile. Les dépouilles sont aujourd'hui de ces lions sont aujourd'hui exposées à Chicago. On pense que c'est surtout la raréfaction des proies, à cause de la sécheresse, et puis de la peste bovine aussi, qui a constitué l'élément moteur de ce comportement de tueur, qui a ensuite été favorisé par la configuration broussailleuse de l'endroit. En même temps, le lion s'avère toujours l'un des plus redoutables prédateurs de la nature. Il est extrêmement efficace, et le plus étonnant, c'est plutôt qu'il s'attaque tellement rarement à notre espèce.
Effectivement, d'ailleurs, les lions sont bien des forces de la nature.
Ah ben tout à fait. Ils sont très musclés, ils peuvent courir à plus de 60 km/h, ils peuvent effectuer des bonds de 10 mètres en longueur, ils pèsent couramment 180 kg pour une femelle et 250-260 kg pour un mâle. Un coup de patte armé de griffes redoutables peut altérer les organes internes d'une proie facilement et leur dentition carnivore est très impressionnante. On n'oublie jamais qu'un lion adulte peut tuer un buffle d'une tonne.
Eh oui, mais ces captures sont sanglantes et paraissent très brutales. Les lions sont des grands prédateurs qui n'ont peur de rien, en fait.
Oui, ces félins sont armés pour s'attaquer à des proies beaucoup plus grosses qu'eux, et ils montrent une grande tranquillité et une grande confiance en eux. Avec leurs 250 kilos, ils peuvent tuer donc un buffle d'une tonne. Les batailles avec leurs proies sont quand même très violentes dans ces cas-là. Et les lions prennent des coups incroyables. Mais les mâles de lions, isolés, hésitent à s'en prendre à des très grosses proies, et se contentent en général de survivre en mangeant avec opportunisme des animaux de taille moyenne, ou alors ils volent des proies aux guépards. Les lions sont aussi les principaux prédateurs de guépards, au demeurant. Les lionnes en groupe assaillent des ongulés comme les phacochères, mais elles peuvent également tuer des gnous qui font 200 kilos, elles peuvent abattre un zèbre qui est encore plus grand, et elles sélectionnent souvent quand même des individus jeunes ou mal portants dans les troupeaux. Les lionnes élaborent des chasses collectives ensemble. Alors leurs stratégies sont très très codifiées. Elles ont besoin d'une grande cohésion sociale. Quand elles sont accompagnées d'un lion mâle, elles peuvent s'attaquer à des proies plus difficiles, et notamment aux buffles. Parce que les buffles, c'est quand même des animaux très armés, très solidaires, et puis ça pèse une tonne de muscles. Alors les lions ne vont tenter leur chance généralement qu'auprès des plus jeunes. Mais lors de ces attaques très dangereuses, le lion mâle a un rôle très important parce qu'il va initier la capture. Alors qu'avec les gnous, en général, le lion mâle se contente d'arriver bien après la bagarre, et là, il vient prendre sa part.
Il arrive aussi que les lions s'en prennent à des proies plus incroyables encore.
Mais là, ça sera toujours d'une manière un peu opportuniste. Alors, ils peuvent débusquer un crocodile, mais ils se méfient aussi des crocodiles quand ils sont dans l'eau. Donc, c'est assez équilibré. En revanche, les lions vont s'attaquer à des girafes, même aux adultes de girafes, en sautant sur leur dos pour les déstabiliser. Quand la proie est tombée au sol, elle est quasiment fichue. Les lions savent aussi tenter de séparer les jeunes rhinocéros ou les jeunes hippopotames de leur mère. Mais ils ont besoin de chasser en groupe structuré où chacun sait très bien ce qu'il a à faire, parce que ça reste quand même des proies très difficiles. Il faut bien se rappeler toutefois que les lions sont des prédateurs extraordinaires, et en groupe ils ne craignent pas grand-chose. Quand ils s'entêtent à poursuivre une proie, ils peuvent aller jusqu'au bout. Ils peuvent même s'attaquer à des éléphants, souvent des jeunes éléphants, mais parfois à des femelles d'éléphants adultes. Alors l'attaque, évidemment, elle ne peut pas avoir lieu s'ils ne sont pas à plusieurs lions qui s'en prennent en même temps au colosse. Et il faut qu'ils parviennent à l'épuiser, à le fatiguer. Néanmoins, en dépit de tout ce savoir-faire, les lions partout ont décliné en Afrique.
Eh oui, la répartition actuelle des populations de lions reflète d'abord combien le lion a été conduit au bord de l'extinction.
Oui, parce que les lions ont d'abord disparu d'Europe, et cela dès l'Antiquité. Maintenant, en Asie, il n'y a plus qu'une seule pollution, celle du parc de Sassandjir, qui subsiste au nord de l'Inde, après des siècles de massacres et de chasses, dites sportives. Ce sanctuaire abrite une petite population qui vit dans la forêt sèche, et cette population a moins de 500 individus. Alors que le lion d'Asie résidait depuis la Perse jusqu'à la Chine, maintenant il n'est plus présent que là. Alors ce lion d'Asie se distingue par une taille un peu plus petite, le mâle fait moins de 200 kg en général, et une longue touffe de poils noirs au bout de la queue. Ce lion d'Asie a longtemps été isolé du lion africain, il s'agit donc de la dernière des deux sous-espèces qui survivent à l'heure actuelle. Et bien que l'autre sous-espèce d'Afrique s'étende du sud du Sahel jusqu'en Afrique du Sud, les lions ne survivent plus qu'à l'état de toute petite population morcelée. Il était auparavant répandu partout, il y a encore 200 ans. L'espèce africaine a maintenant disparu de 95% de son aire de répartition. La troisième sous-espèce, qui était le lion dite de l'Atlas, elle s'est éteinte en 1920.
Je suppose que les effectifs sont aussi très fragiles, même en Afrique.
On ne compte plus guère que quelques 23 000 à peu près individus qui sont dispersés en Afrique. C'est un tout petit effectif, la taille d'une petite ville en France, face à 7,8 milliards d'humains. On dénombrait encore 200 millions il y a 100 ans. Mais les populations fragmentées restent très fragiles et les lions sont très rares en dehors des zones protégées. En fait, ils ont été décimés à un rythme extrêmement rapide depuis le 19e siècle, puisque les populations ont chuté de plus de 45% en 20 ans. L'espèce a disparu de 26 pays d'Afrique, et pourtant le taux de reproduction est rapide. Une lionne peut donner naissance à 2 à 4 lionceaux tous les 2 ans. Du coup, il y a des populations qui sont très concentrées dans des réserves, qui s'accroissent trop vite pour l'espace dont elles disposent. Alors les parcs d'Afrique du Sud sont quasiment saturés, si bien que ces lions-là ne pourront jamais récupérer leurs effectifs anciens puisque les espaces limités disponibles rendent la restauration des populations quasiment impossible.
Et la gestion des parcs tourne parfois au contrôle des naissances, ou pire, au rétablissement de la chasse sportive dans des enclos. Que reste-t-il du prédateur ?
Eh oui, l'équilibre proie-prédateur est maintenant rompu depuis longtemps. Outre les maladies qui déciment les lions, le braconnage, la diminution des proies dues à la chasse illégale, la destruction des habitats, les conflits avec les agriculteurs, les conflits avec le marchand, tout ça, ça prend largement le dessus. Ce qui fait que la dynamique des populations de lions atteint partout ailleurs en Afrique un niveau critique. Bon, la seule solution, c'est pourtant une solution qui est impensable. Il faudrait relier entre elles les populations morcelées par des grands corridors écologiques protégés et puis tenter des réintroductions. Mais là encore, évidemment, ça paraît totalement irréalisable.
Pourquoi les espèces se reproduisent dans les zoos, qui clament sans cesse qu'ils sauvent aussi des espèces rares et protégées? Les zoos peuvent-ils avoir un rôle actif dans la conservation des grands prédateurs?
Bien sûr que non, ou du moins ce serait presque mission impossible. Les lions sont très nombreux dans les zoos, en effet, presque autant que les tigres. Il existe d'ailleurs plus de lions en captivité que de lions sauvages. Mais ces lions sont génétiquement perturbés, on le voit très bien avec la présence par exemple de lions blancs ou de lions albinos dans les parcs animaliers, ou même chez des particuliers comme en Amérique notamment. De plus, le problème de l'élevage en captivité n'apprend rien au lion, ni pour sa vie sociale, ni pour ses aptitudes de prédateur, puisqu'il est nourri de carcasses. Les lions ne peuvent pas apprendre à chasser collectivement des proies sauvages, alors ils se contentent d'attendre leur repas.
Mais si ces lions se reproduisent bien dans les zoos, on pourrait mettre en place des protocoles de réintroduction en leur apprenant le minimum sur la chasse.
Je doute que cela suffise, même si on le pouvait. Parce que ces lions captifs ont subi ce qu'on appelle un outbreeding génétique. C'est-à-dire que seuls les lions qui ont été aptes à survivre à la captivité se sont reproduits. Et ce sont donc ces lions qui sont les moins farouches, qui tolèrent la familiarité avec l'homme et qui ont répandu leurs gènes. Et ces gènes sont seulement utiles pour survivre en détention. Ils sont en quelque sorte adaptés à la captivité. Souvent ces lions ont été élevés au biberon pour prévenir la mortalité des jeunes. Du coup ils sont devenus trop familiers avec l'humain. Ils n'ont pas de vie sociale, ni aucun apprentissage de leur rôle dans les écosystèmes. Ces lions passent leur vie à attendre qu'on s'occupe d'eux ou qu'un fanfaron les oblige à des numéros de cirque. Les relâcher serait donc dangereux et inutile. Et pour finir, où les relâcherait-on? Il n'existe aucun espace protégé pour les introduire. Les parcs sont saturés, au contraire. Et les étendues africaines sont bien trop peuplées par les humains pour accepter facilement un prédateur dans les villages. La tendance est plutôt à détruire les ours ou les loups qui nous dérangent, et donc aussi les lions sauvages, qui vivent en dehors des réserves et qui apeurent les habitants. Bah, il faut bien comprendre que si les lions ont disparu d'une zone, c'est aussi qu'elle devenait inhabitable pour eux. Il faudrait d'abord restaurer la flore, puis la faune, avant toute tentative de restauration. Car les lions ont besoin de grands espaces, mais aussi de grands troupeaux d'ongulés sauvages. Et même ces troupeaux d'ongulés sauvages sont souvent indésirables, parce qu'ils envahissent les parcelles des agriculteurs. Un troupeau de buffles peut faire des dégâts énormes. On le voit, la restauration des lions sauvages à partir des lions captifs, ça va exiger des efforts tellement considérables et complexes qu'on voit mal comment on pourrait maîtriser un plan qui paraît actuellement totalement urgent.
Mais on pourrait peut-être essayer si on faisait comme les ours ou les vautours.
Alors, les vautours réintroduits en France ont été fidélisés autour de charniers de nourrissage. Il ne faut pas oublier qu'ils se situent comme charognards dans le réseau trophique. C'est donc beaucoup plus facile. Le succès dans leur reproduction est donc lié à un élevage particulier de jeunes, tout ça dissimulé au public, et puis petit à petit à des implantations soutenues par des sites alimentaires. Mais ça a été très laborieux de renforcer les populations, et encore plus d'en introduire d'autres. Beaucoup sont morts entre-temps. En fait, on ne peut restaurer une population de lions qu'à partir d'individus sauvages qui seraient prélevés à un endroit pour les remettre ailleurs dans un autre endroit protégé. C'est comme ça que ça s'est passé, par exemple, pour les ours en France. Mais on voit que, si, que l'ours actuellement, l'ours des Pyrénées, est génétiquement éteint. Ces renforcements de populations ont permis un rétablissement des populations à partir d'animaux dont la génétique était très proche. Quelques ours slovènes, déjà sauvages, ont été relogés dans les Pyrénées. Mais n'oubliez pas les fortes oppositions qu'il y a eu par les pasteurs, les chasseurs, en dépit du très faible nombre d'ours relâchés. Il faut voir un peu les conséquences qui ont été très minimes sur les élevages. Et pourtant, ça a soulevé des montagnes de protestations. Même les loups sauvages, qui eux, sont revenus naturellement. Ils ont suscité des colères et des contestations. Et cependant, l'installation de quelques loups en France ne rétablit évidemment que très sommairement l'intérêt écologique des grands prédateurs. Vous imaginez, il y a 150 à 200 loups en France, et nous sommes 60 millions d'habitants.
Eh oui, c'est fou.
C'est incroyable la différence et l'opposition entre ces deux groupes. Avec des réintroductions conservatoires. En plus, les oppositions sont encore plus dures, et c'est très dur de convaincre encore. Les habitants vont aussi en subir l'impact, évidemment. Hein. Les chats, les chiens, par les loups, vont y passer un jour. Donc, avec des lions, vous comprenez la différence. Et puis, la conscience écologique reste très peu développée. Aussi, ces tentatives sont bien... sont très difficiles avec des grands prédateurs. Il faudrait apprendre à vivre avec un lion d'Afrique, ce qu'on pourrait très bien faire en France. Vu que le lion a été européen pendant des années et des années, on pourrait très bien tenter de réintroduire en
alors
France.
Là, n'en
et vous imaginez,
pas.
Alors que c'est déjà difficile de vivre avec 150 loups, c'est pas demain qu'on va relâcher 150 lions dans un environnement. Et puis évidemment, on peut pas imposer ça en Afrique, alors évidemment on pourra jamais les relâcher ailleurs. Cette option n'existe pas pour le lion.
Malheureusement, à part peut-être en Asie, on parle de déconfiner des lions de la réserve du Gire, déjà surchargés en lions.
Oui, les réserves sont surchargées et les associations de protection des lions d'Asie promettent des projets de réintroduction dans d'autres régions plus ou moins désertiques en Inde ou en Iran. Mais lesquelles? Et il s'agira juste de transférer des lions sauvages d'une réserve à une autre. Ça pourrait s'avérer efficace s'ils font souche. Mais l'acceptation par les populations locales s'avère très difficile à obtenir. Hein. N'oublions pas qu'un lion, c'est autre chose. C'est un peu plus puissant qu'une meute de loups, même.
Pourtant, le lion est un magnifique emblème de la vie sauvage. Et cette image positive pourrait profiter aux habitants localement?
Ah bah oui, bien entendu. Conserver les lions, ça pourrait faire une belle image. Mais il faut pas oublier aussi que la plupart des gens ne sont pas du tout prêts ni à les accueillir, ni à comprendre ce que c'est que l'écologie d'un lion. Alors pour les conserver, il faudrait étendre l'espace disponible pour leur proie sur plus de 20 000 km² environ, rien qu'en Afrique du Sud. Or, l'agriculture en Afrique, l'urbanisme, les exploitations minières se sont appropriées la plupart des terres. L'Afrique n'a plus beaucoup de grands espaces ouverts. Et puis, il faudrait aussi sécuriser les villages. N'oublions pas que les déplacements naturels de la faune sont déjà restreints par des clôtures, par les petites réserves. Il faudrait appliquer une politique de corridor écologique qui relierait toutes les populations d'espèces protégées isolées. Et ce serait aussi nécessaire pour les ours, les loups, les tigres et les lions. Mais là encore, qui est prêt à voir passer un lion ou un loup dans son jardin ? Un grand prédateur a besoin de proies sauvages dans des écosystèmes fonctionnels, et ça jusqu'au moindre insecte. Or là encore, qui est prêt à voir passer un buffle ou un renne sauvage dans son jardin ?
Mais c'est un vrai questionnement, le partage quand même de cette planète.
Oui, mais la fragmentation de toutes ces populations isolées les unes des autres réduit leurs possibilités de relations entre leurs groupes et réduit les relations de reproduction pour répandre des gènes plus diversifiés. Et donc, dans l'état actuel des politiques de conservation de biodiversité, la disparition des lions sauvages semble quasiment inéluctable. Et en plus, les zoos fournissent même une sorte d'alibi en disant « Ne vous inquiétez pas, nous on continue à les protéger en captivité.
Ouais, »
L'économie du capital, l'économie du capital ne laisse tout simplement pas de place à la faune sauvage.
C'était Full of Damnation par Epica. Nous revoilà sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, dans une émission où nous nous amusons à décortiquer les drôles d'idées de la biologie. Nous venons d'aborder la vie singulière de ce prédateur hors norme qu'est le lion. Mais c'est aussi le seul félin qui mène une vie sociale élaborée. Il forme des groupes de parfois plus d'une trentaine d'individus, mais chaque groupe paraît dirigé par un grand mâle. Le lion est aussi capable de tuer n'importe quelle proie, de la gazelle de Grant à l'éléphant, et il peut faire régner la terreur aussi bien chez les buffles que chez les hyènes. Alors, est-ce qu'on peut sacrifier à l'habitude en affirmant que le lion est un roi chez les animaux ?
Si c'était le cas, Siona, ce serait un roi tout nu. Non seulement ce prétendu royaume n'est pas héréditaire, mais le lion n'a aucun talent pour se faire obéir, même par les lionnes ou par ses propres congénères. En tant que prédateur, il domine la savane, certes, écologiquement, mais il doit composer avec bien d'autres événements. Bon, nous savons tous que l'écologie des lions est corrélée avec plusieurs facteurs. Leur vie sexuelle, leur place dans les réseaux trophiques des habitats ouverts.
Oui, nous allons traiter ici de cette socio-écologie qui, d'ailleurs, selon le terme du biologiste Jean-Yves Gauthier, ouvre les prémices d'une écologie évolutive. Dans leur relation avec la faune africaine, les lions sont-ils inféodés à certaines proies ?
Alors, ils ne sont pas réellement inféodés. Ils ont de gros besoins et les grands ongulés sont leurs maîtres préférés. Les lions sont liés aux larges habitats ouverts, des prairies et des savanes, ou même la forêt sèche dégradée. Mais leur répartition passée montre qu'ils peuvent s'adapter à bien d'autres climats. Ils aiment moins la forêt humide, mais peuvent résister dans des conditions semi-désertiques, comme par exemple en Namibie. Aujourd'hui, ils sont donc confinés à l'Afrique. Mais c'est aussi à cause de la disparition des grands troupeaux sauvages de chevaux, de rennes ou de rocs que le lion a disparu du sud de la France, à peu près à la période romaine, à les 1000 ans avant le roc.
Mais les lions ne sont pas les seuls prédateurs dans la savane, et ils savent affirmer leur puissance face aux autres.
Oui, tiens là. Un groupe de lions est très peu vulnérable, mais il sait s'écarter de la route des éléphants et évite d'être confronté à des animaux groupés. Ainsi, un lion isolé s'écartera d'abord devant un troupeau de buffles ou devant une mère rhinocéros. Au contraire, les lions vont disperser à la fois les espèces proies et les autres prédateurs. Cet effet de dispersion joue un rôle très important dans l'équilibre des espèces. D'une part, les lions régulent l'abondance des troupeaux de proies, évitant un surpâturage qui détruirait les milieux. Et en tuant les ongulés de jour comme de nuit, ils dispersent les autres et équilibrent aussi la consommation des herbivores. On sait toujours que leurs attaques ne sont pas couronnées de succès. Mais le déplacement des hardes de gnous favorise la régénération du tapis végétal. Les ongulés peuvent mourir de faim ou de soif lorsqu'ils sont en surdensité. Comme les attaques de lions restent opportunistes, les proies se méfient de leur présence et sont amenées à davantage se disperser. Cela ne réduit pas la taille des troupeaux, mais les éparpille sur de plus grandes surfaces, permettant aussi aux autres prédateurs de s'insérer dans l'écologie complexe des plaines africaines.
Cet effet de dispersion joue aussi sur les autres prédateurs.
Bien sûr. Au-delà de leur effet de régulation pour les troupeaux d'ongulés, les lions favorisent bien sûr la dispersion des autres prédateurs. Déjà, les léopards et les guépards évitent les groupes de lions. Ils s'éparpillent au loin. Il n'est donc pas rare que les lions s'attaquent à ces félins, qui vivent en solitaire. Et donc ces félins vont essayer de rester discrets. Les lions s'en prennent souvent aux juvéniles ou aux portées isolées ou mal dissimulées. Ils peuvent donc mettre à mort des guépards et des léopards adultes. Alors ça va faciliter l'éparpillement de ces léopards et guépards dans la nature, donc favoriser l'éparpillement des proies qui vont être davantage disséminées. Les lions peuvent ainsi réduire la pression de prédation et favoriser, contradictoirement, la survie des ongulés eux-mêmes.
Mais les lions, Thierry, sont aussi confrontés à des prédateurs comme les licaons ou les lyènes, qui vivent en grands groupes organisés.
Alors oui, c'est vrai que les licaons sont des animaux tout à fait impressionnants, mais les lions sont généralement largement gagnants. Ces chiens sauvages africains montrent un poids beaucoup trop faible. Ça pèse environ 20 kilos, un licaon. Alors quand le lion pèse 10 fois plus lourd, c'est quand même un peu impressionnant. Bien sûr, les licaons vivent en groupe de plus de 20 individus, et dans une société très complexe. Mais les licaons, ensemble, peuvent se sortir de situations délicates, surtout s'ils sont face aux hyènes tachetées. Par contre, entre les lions et les hyènes, là, on a affaire à des ennemis presque à la haine séculaire.
Et oui, les hyènes forment des groupes avec une forte cohésion.
Pendant longtemps, jusqu'aux études de Hans Krug dans les années 70, on a cru que la répartition des rôles plaçait les lions comme chasseurs et les hyènes tachetées comme charognards. Les hyènes tachetées sont les plus grandes hyènes d'Afrique, avec 56 kilos en moyenne. 56 kilos par rapport à un lion de 200 kilos, on voit déjà qu'il y a une marge. Mais elles sont très sociales. Elles forment des clans matrilinéaires avec plusieurs dizaines d'individus. Les femelles sont très solidaires entre elles et elles sont plus grandes que les mâles. Et elles les dominent largement d'ailleurs. Elles possèdent une très puissante mâchoire capable facilement de broyer un os. Et elles se repaissent souvent de carcasses. De plus, on peut observer au matin des lions qui étaient attablés autour d'une proie et des hyènes nerveuses aux alentours, attendant que le repas soit fini pour se précipiter sur les restes. Alors les conclusions semblaient s'imposer d'elles-mêmes, les hyènes n'étaient que charognards.
Mais finalement, ces observations étaient trompeuses.
En effet, Krug comprirent très rapidement que c'était les lions qui s'étaient emparés du butin de la chasse nocturne des hyènes. Bien que des groupes de hyènes puissent harceler un ou deux lions, quand ils sont isolés ou juvéniles, pour dérober une proie qu'ils ont abattue, plus de la moitié des cas au Serengeti, ce sont des lions qui subtilisent les proies aux hyènes après quelques coups d'intimidation. Ces deux espèces s'attaquent en effet presque aux mêmes proies. Et si les hyènes savent voler le repas d'un guépard, elles se font souvent enlever leur propre festin par des lions résolus. Les lions mâles étant trop jeunes pour savoir bien chasser, ou ils sont parfois isolés parce qu'ils ont été expulsés d'un clan, eh bien ils sont souvent obligés de se nourrir de ces dépouilles. Il faut aux lions quand même une certaine détermination, hein, parce que des deux côtés, les crocs sont vite dangereux. Et il y a beaucoup de hyènes qui en ont été victimes. Mais les hyènes peuvent parfois être exterminées par des lions vindicatifs, surtout si elles sont solitaires, et qu'elles sont coincées dans leur fuite. Par contre, les lions solitaires s'en sortent mieux, mais avec quelques dangereuses blessures. Il faut bien penser qu'encore, une hyène de 50 kg ne peut pas faire face seule à un lion de 200 kg.
Eh oui, il y a une différence de poids. La compétition entre les deux espèces s'avère souvent très forte.
Oui. Dans le cratère d'une Ngorongoro, par exemple, il n'est pas rare de voir des lions massacrer des hyènes qu'ils rencontrent. Les deux prédateurs vivent en grand groupe et la disponibilité des proies reste très faible, très mesurée. Mais surtout, le nombre de hyènes excède de beaucoup le nombre de lions. Alors les rencontres sont évidemment déchaînées.
Les hyènes tachetées se regroupent-elles pour échapper aux tueries des lions ?
C'est sûrement le cas, parce qu'on sait que la taille des clans de hyènes tachetées est corrélée à la présence des lions, et le nombre évidemment va favoriser la défense. En revanche, en groupe, les hyènes s'avèrent aussi redoutables contre les lions, même adultes, et peuvent exécuter des lions isolés très violemment. La taille des groupes de chacun des prédateurs va donc intervenir beaucoup pour régler leurs différends et aussi équilibrer leurs relations écologiques tumultueuses. Parce que la coexistence va s'élaborer autour de relations écologiques très complexes entre hyènes, lions et aussi toutes les autres proies.
Les lions aussi se rassemblent pour mieux lutter contre le clan des hyènes.
Alors en fait, les lions restent surtout vulnérables quand ils sont lionceaux. Mais le groupe des lions se protège aussi. La plupart des autres espèces se défient des lionceaux et peuvent les massacrer s'ils sont isolés. La plupart des jeunes lions apprennent par contre très vite à se dissimuler face aux autres animaux. Les hyènes sont d'ailleurs les principales prédatrices des lionceaux. Et même des lionnes isolées peuvent du coup houspiller une lionne, la pourchasser et même s'emparer des petits. Pourtant, le plus souvent, la concurrence entre les deux espèces se limite à des stratégies d'intimidation pour l'obtention d'une proie, sans que ne se déroulent de très vrais combats.
Et entre eux, les lions se battent aussi assez souvent.
En fait, ils vivent en communauté matrilinéaire. Ça regroupe des femelles et quelques mâles, qui peuvent se montrer jaloux à l'intérieur de leur clan. Et donc, leur rivalité concerne soit leurs amours, soit le passage de lions d'un autre clan.
Et les lions se séduisent avec des rugissements et des mimiques faciales, comme les autres félins ?
Oui, les lions mâles ne se reproduisent qu'à l'âge de 4 ans. Les lionneules peuvent avoir des portées dès l'âge de 2 ans. Ce décalage permet aux lions de disposer de plus de femelles pour se reproduire. Mais qu'on ne s'y trompe pas, il ne peut pas s'accoupler avec une femelle sans obtenir son consentement. Les lionnes ont tendance à préférer les mâles à crinière sombre et à la voix profonde, et les mâles plutôt âgés. La lionne réceptive va émettre de fortes concentrations de phéromones, et ses odeurs vont renseigner le mâle sur son identité, la complémentarité de son système immunitaire et sa sensibilité. Pour identifier ses parfums, le lion retrousse ses lèvres dans une mimique célèbre qu'on appelle le phlémen, qui va porter toutes ses odeurs jusqu'à son appareil vomero-nasal, qui est situé au-dessus de son palais. Il entreprend alors de se rapprocher d'elle, et puis il va renifler sa gueule et les parties génitales.
Mais il n'essaie pas de copuler tout de suite avec elle ?
Non, c'est la femelle qui invite chez les lions. Elle tourne autour de lui, se roule à ses pieds, se frotte la tête sur le pelage, elle le provoque sans cesse, puis prend de la distance et recommence jusqu'à ce que le mâle s'approche. Elle s'allonge au sol alors, en remontant son dos dans une position typique qu'on appelle la lordose, ce qui signifie qu'elle est d'accord pour faciliter l'intromission. Le mâle saisit la nuque de la lionne, l'accouplement est au début très bref, et chaque individu émet des râles qui paraissent même assez agressifs. La lionne semble chicaner, se retourner en protestant. Mais c'est peut-être parce que le pénis des mâles possède quelques épines de kératine qui sont faites pour stimuler son vagin et s'accrocher au vagin à la manière d'un velcro, trop fortement au début. Mais très vite, la lionne recommence son manège et peut réclamer ainsi des dizaines de copulations qui progressivement vont s'avérer de plus en plus lascives dans la journée. les lionnes peuvent solliciter jusqu'à 50 copulations par jour.
Ah bah dis donc.
La lionne râle, elle se met sur le dos, elle montre une satisfaction très sensuelle au fur et à mesure des accouplements. Le mâle, lui, évidemment, devient de moins en moins pressé et répète de plus en plus ses copulations, mais avec moins de zèle.
C'est une femelle très enthousiaste, mais elle connaît bien le mâle de sa troupe.
Pas vraiment, car en fait, le mâle est un étranger qui va être admis dans le clan des femelles. Il reste le reproducteur du clan pendant quelques années, environ 3-4 ans. Cela ne l'empêche pas les lionnes, évidemment, de s'adonner à des câlins avec d'autres mâles adultes qu'elles vont rencontrer de temps en temps, plus souvent des célibataires. Et c'est là que le bât blesse, car c'est la fréquence des copulations qui déclenche l'ovulation et donc la grossesse. Et ces excursions sexuelles peuvent entraîner une violente concurrence entre les mâles. À l'intérieur du clan, les rivalités sont atténuées, parce que les lions établissent une sorte de préséance de l'un d'entre eux, et qu'ils sont souvent familiers entre eux, ou même parfois ce sont des frères. Ils ont vécu ensemble dans une ligue de 2 à 4 célibataires, et ils ont partagé des expériences communes, où leur association a favorisé la survie. Ils se toléreront donc davantage.
Et au bout de ces prérogatives sexuelles, après environ 4 ans, le clan des femelles voit un nouveau mâle venir.
Oui, en général, c'est à peu près la période. Et la succession des reproducteurs va alors s'arracher de haute lutte. Car pour obtenir ses prérogatives de mâle reproducteur, le nouveau mâle doit d'abord évincer l'ancien. Ainsi, certains lions vont vivre une vie nomade toute leur existence, sans se reproduire ou très brièvement, avec une femelle attentionnée ou isolée. La rivalité entre les lions entraîne souvent des bagarres durant laquelle un nouveau venu va exprimer ses intentions. La rencontre peut alors être très violente. Mais généralement, les lions admettent très rapidement leur défaite. Parfois, un nouveau mâle réussit à s'accoupler avec une lionne réceptive qui le laisse accomplir cette copulation. Souvent à l'heure, le ou les lions du groupe vont se rudoyer, voire sévèrement rosser le nouveau prétendant qui choisit de s'éclipser après cette brève bataille. Mais ça signifie déjà que le clan des lionnes aimerait bien en avoir un nouveau lion. Parfois, le rapport s'inverse, et c'est le nouveau venu qui vont expulser le lion initial, qui fuit vers d'autres horizons. Dans des cas rares, un lion peut aussi mourir suite à ces duels agressifs, qui de toute manière laissent quand même souvent des blessures et des cicatrices.
Et ces lionnes, comment réagissent-elles ?
Soit elles se liguent entre elles contre les nouveaux prétendants et les poursuivent jusqu'à leur renvoi, ainsi elles facilitent, elles assistent à la résolution de leur propre mâle, soit elles attendent indifférentes l'issue de la joute, voire dans certains cas, elles vont même faciliter l'éviction de leur ancien partenaire en le poursuivant ou en râlant dessus. Les lionnes jouent cependant un rôle donc très actif, car c'est parce qu'elles sont sensibles aux nouveaux venus que le changement du reproducteur s'établit. En même temps, elles ne sont pas toutes sensibles en même temps. Et comme elles ne sont pas toutes en même temps favorables à la nouvelle situation, eh bien, il va se passer des choses bizarres. D'autant que certaines peuvent encore avoir des lionceaux à nourrir dont le père était l'ancien mâle évincé.
Oui, du coup Thierry, si le mâle reproducteur est expulsé du groupe, la famille des lions devient une famille recomposée.
Et non, Siona, parce que le problème, c'est que chez comme beaucoup de mammifères, les lionnes ne peuvent être fécondes que si elles n'allaitent pas. Si l'allaitement est arrêté, l'air devient féconde. En outre, les lionnes n'ont qu'une seule portée tous les 2 ans. Elles élèvent leur lionceau donc presque pareillement pendant 2 ans ensemble, et les lions reproducteurs ne restent que de 3 à 4 ans. Le délai est donc très bref pour qu'une lionne se reproduise, et le temps est trop long pour attendre des nouveaux. Alors, le plus souvent, les nouveaux lions qui vont arriver, ils vont s'acharner à débusquer les lionceaux qui ne sont pas encore sevrés.
Et c'est ici qu'on voit apparaître un comportement spécial, le comportement d'infanticide chez les lions.
Oui, on avait remarqué depuis le 19e siècle déjà que des lions pouvaient mettre à mort des lionceaux. Ce comportement d'une espèce qui tue la progéniture avait été interprété comme une pathologie quasiment psychiatrique. Comment des animaux pouvaient-ils se montrer si cruels ? Alors on a minimisé un peu l'affaire en montrant que les infanticides n'étaient pas rares dans le monde animal. On les trouve chez les zèbres, chez les singes. Hilda Bruce, en 1960, avait déjà identifié que des souris femelles gravides qui souhaitent s'accoupler avec un nouveau mâle pouvaient tout simplement avorter de leur petit fœtus. La souris met fin à sa portée quand elle est confrontée à un reproducteur plus actif, plus attractif pour elle. Dans certains cas, elles peuvent même aussi tuer leurs petits qui ne sont pas encore sevrés pour favoriser une réceptivité nouvelle. En quelque sorte, il s'agissait pour ces animaux d'un contrôle des naissances, une forme de contraception après coup, si on peut dire. Ces femelles préférant choisir un géniteur nouveau. Le même phénomène existe chez de très nombreuses espèces.
Oui, mais ce sont des femelles qui réduisent leur reproduction volontairement. Tandis qu'ici, ce sont des lions mâles qui massacrent les lionceaux d'une autre.
Deux chercheurs, Craig Parker et Anne Puzet, ont étudié ces événements chez le lion en 1983 et ils en ont découvert la cause et le but. Les lionnes montrent différentes réactions à l'arrivée des nouveaux mâles, depuis un enthousiasme parfois mesuré jusqu'à un évitement complet ou même la défense active de leur rejeton. Dans les semaines qui suivent l'éviction de l'ancien mâle reproducteur, les lionnes vont avoir une faible fécondité. Pourtant, les femelles les plus séduites vont accroître leur activité sexuelle et vont initier de nouvelles copulations. Elles peuvent aussi solliciter un plus grand nombre de partenaires. Cela stimule l'existence de coalitions chez les nouveaux mâles. Et ce groupement, de plus, leur donne plus de force et de confiance pour engager l'éviction du ou des mâles qui étaient présents dans le groupe. En revanche, quand ces nouveaux mâles s'installent dans le groupe après en avoir chassé les autres, ils n'ont pas d'autre moyen pour accélérer la fécondité des lionnes que de les débarrasser de leur allaitement. D'autant que cette position nouvelle de reproducteur ne va durer que 4 ans, peut-être 6 ans maximum. Alors, les lions qui vont chercher des portées de lionceaux déjà nés et les massacrer cette reprogéniture qui était celle des anciens reproducteurs. Ces lionceaux ne leur sont évidemment pas apparentés, et comme ils n'en sont pas les géniteurs, eh bien ils s'en fichent. Les lionnes peuvent tenter de défendre leur portée, ou même s'enfuir avec des jeunes plus âgés. Mais cela leur est difficile, parce que du coup elles vont être admises à vivre seules, et elles ne pourront plus rentrer dans le clan. Le plus souvent, après quelques semaines, en revanche, une fois l'infanticide passé, elles vont retrouver leurs envies génésiques, et se prêtent alors à des accouplements avec les nouveaux venus. On est donc très loin de l'image d'un lion tyrannique qui règne sur un harem de femelles passives, car ce sont toujours les femelles qui vont décider finalement délibérément de leur choix sexuel et qui vont structurer l'association du clan des lions.
Mais en fait, les lionnes n'en veulent pas aux lions de cette destruction de leur portée. Pourquoi se montrent-elles tolérantes à ces infanticides ?
Ça dépend des femelles. Certaines vont s'activer avec énergie à la défense des lionceaux du premier mâle. Toutefois, c'est quand même plus facile de faire ça lorsqu'elles sont plusieurs à refuser les infanticides, parce qu'un mâle de lion, c'est très puissant, même par rapport à une lionne. Le conflit sexuel réduit toujours la reproduction de l'un ou l'autre sexe. Néanmoins, que ce soit en Ngorongoro ou en Serengeti, aucune femelle ne se reproduit globalement moins qu'une autre. Il faut bien penser que les lions mâles vont changer de site quasiment tous les 4 ans. De plus, ces événements vont s'inscrire dans la mémoire du groupe. Et selon leurs affinités électives, ces souvenirs pourront conduire les femelles à contribuer au rejet de leur mâle ou au contraire à l'aider pour qu'elle continue à assurer sa préséance. Du coup, ça peut durer 4 à 6 ans selon leur manière d'être. Dans tous les cas, cette prise de possession d'un groupe participe très clairement de la diversité génétique des lions, qui se retrouvent ainsi dans leur coalition avec des avantages combinés, une protection et une contribution différentielle à la reproduction. C'est très efficace.
En fait, il s'agit clairement d'un exemple du conflit sexuel dans l'évolution.
Tout à fait. Le conflit des sexes est directement lié à la divergence des intérêts de la reproduction entre les mâles et les femelles. Pour faire court, les mâles peuvent agrandir leur succès reproducteur en multipliant les partenaires sexuels, parce qu'ils vont augmenter la quantité de leur progéniture, de leurs descendants, après chaque accouplement réussi. Les femelles, elles ne peuvent pas accroître leur descendance en additionnant les partenaires. Elles restent tributaires de leur physiologie. Elles ont un nombre de petits possibles à la naissance et ça n'augmentera pas. Elles sont donc plutôt attentives aux qualités des mâles. Et si elles choisissent plusieurs partenaires, cela pourra accroître la diversité génétique de leur progéniture, mais jamais leur nombre de descendants.
Oui, le conflit sexuel concerne donc les deux sexes qui s'opposent dans leurs relations amoureuses. Comme tu le développes aussi dans tes livres, c'est...
Oui, s'il y en a, car le conflit, c'est le moteur qu'on trouve chez toutes les espèces sexuées. Le moteur de l'évolution, c'est ce tir à la corde de l'interaction particulière qu'on forme, y compris dans la sexualité. Mais ça va s'exprimer plus ou moins intensément selon les stratégies sexuelles de chaque espèce et selon leur histoire évolutive. Cette divergence, elle s'est construite au cours de toute une histoire. Et elle est dans l'intérêt de la reproduction, et c'est pour cela qu'elle entraîne un conflit. Chaque sexe peut essayer de contrôler l'autre. Ce conflit, c'est une simple interaction où chacun va tirer à la corde d'une manière ou d'une autre. Les mâles peuvent surveiller ou harceler les femelles, ou tuer des petits qui ne sont pas les leurs. Les femelles peuvent refuser, blesser ou tuer les mâles déjà fécondants. C'est par exemple la stratégie de la montre religieuse, dont certaines femelles vont décapiter le mâle qui est devenu inutile pour elles et qui est même un concurrent après la fécondation, un concurrent pour ses propres petits. Donc on n'est pas dans une harmonie reproductive. Chaque sexe est amené à réduire la reproduction de l'autre. Les femelles en refusant les accouplements, les mâles en contrôlant les femelles. Et tout ça, ça peut équilibrer un conflit, évidemment, en restant quelque temps ensemble pour faciliter l'élevage et la descendance. Car ce conflit se finit en un tir à la corde qui va essayer de s'équilibrer. Mais au moindre accroc, évidemment, ça peut se rouvrir avec force.
Mais Thierry, alors, le conflit sexuel conduit à la destruction de la progéniture de l'un ou de l'autre sexe?
Il entraîne en effet que les deux sexes peuvent en pâtir, et que la reproduction de chacun peut être réduite par l'autre. Mais il existe toujours deux faces à un processus évolutif qui dynamise la nature. Déjà la femelle, en sélectionnant un mâle préféré, évince par défaut tous les autres célibataires, et donc elle réduit leur succès reproducteur. De ce côté, le mâle, en surveillant ou harcelant la femelle, va diminuer aussi le succès reproducteur de la femelle. Alors, pour échapper à un résultat dévastateur de cette face négative de l'interaction du conflit sexuel, les deux sexes doivent apprendre à se faire confiance, à développer des relations émotionnelles positives, à développer ce qu'on va appeler leur amour. C'est ça le tir à la corde. Chacun tire de son côté jusqu'à ce qu'un équilibre se fasse. Les parades sexuelles et le plaisir vont donc consacrer des engagements amoureux des deux sexes. Et puis pour faire durer une situation reproductive stable, bien sûr, on a besoin de ce tir à la corde. Car la reproduction a besoin d'associer des partenaires, elle a besoin d'une coopération minimale des deux sexes. C'est une coopération à la base de la reproduction. Alors le conflit d'intérêts est un moteur de l'émotion amoureuse qui va inciter à la conciliation. Voilà pourquoi, quand on est amoureux, on peut des fois se disputer. Le conflit fait la dynamique des accouplements délibérés, toujours précaires et délicats. Le conflit et les tentatives de résolution du conflit construisent toutes les relations amoureuses et les inscrivent dans l'évolution.
Au café rêvait un lion, devant sa consommation, il voit venir une abeille, vêtue d'un tailleur quereille, de noir avec le soleil. Une petite merveille, elle grésille, elle bourdonne, avec l'accent de Narbonne, et gentiment elle butine, un diabolo grenadine. Ainsi rêvassait le lion, devant sa consommation, il voit venir un moucheron, vêtu d'un complet marron, avec des ailes sur le tronc et une mèche sur le front, qui grésille, qui s'éseille, avec l'accent de Marseille, qui lui casse les oreilles et lui arrive à l'orteil. Hey petit, je suis le lion, allez, va jouer au ballon. Tu peux t'éponger le front, avoir les jambes en coton. Ici c'est moi le patron, c'est moi qui donne le ton. Tu s'essayes, tu grésilles et tu tournes autour des filles. Un conseil, tiens-toi tranquille, tu vas t'asseoir sur le grill. T'es prêt comme une fourmi et tu veux te battre avec moi. Allez, sois raisonnable, je suis trop fort. Si tu t'en prends à la pègre, tu finiras dans le vinaigre. Allez, tiens-toi tranquille, sinon t'es mort. Le lion n'a rien vu venir, le moucheron sans prévenir, lui a mis un coup de Satan à la pointe du menton. Il n'en revient pas le lion, et ce n'est qu'un échantillon. Un coup dans les testicules, ça c'est de la part de Jules. J'aime pas tellement qu'on me bouscule quand je me rince les mandibules. Cette histoire est une fiction. Moi, j'ai rencontré le lion, je lui ai mis, c'est ridicule, un coup dans les testicules. Il m'a dévoré tout cru, au beau milieu de la rue. Je grésille, je zézeille, et dans le dos j'ai des ailes. J'ai l'éternité au ciel, grâce à mon exploit de la veille. Ta-da, 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 ta-da.
Fersen vous interprétait Lyon. De retour sur 89.4 Radio Libertaire, la radio sans maître, sans dieu et sans publicité pour bousculer notre tête avec Science en Liberté. Alors Thierry, dans cette nouvelle émission de Science en Liberté, nous venons d'évoquer combien la vie des lions peut paraître sauvage. En même temps, nous comprenons qu'être un prédateur de coléoptères comme le petit troglodyte mignon n'est pas bien différent qu'être un mangeur de buffles comme le lion. Il n'y réside aucune méchanceté, juste de l'écologie. La grosseur de la taille de la proie par rapport au prédateur nous émeut, et un petit prédateur attaquant une grosse proie déplaît à notre sensibilité. Mais c'est seulement nos préceptes moraux qui jugent que l'un est plus violent que l'autre finalement, le tigre plus que la baleine. De plus, l'évolution ne nous a pas laissés tranquilles en introduisant le conflit des sexes, à partir de l'infanticide des lionceaux, par exemple. Pourtant, le conflit sexuel est juste le moteur des relations amoureuses. Mais maintenant, il faut aborder comment se forment les ligues de lions et la place qu'occupe son écologie dans leurs relations sociales. Car le lion est la seule espèce de félin à disposer d'une vie sociale, pourquoi ?
Alors, c'est pas tout à fait le seul, Siona. Les lions vivent en groupes sociaux et montrent une grande complexité de leur vie sociale. Mais qu'on ne se méprenne pas. Tous les animaux ont des relations sociales, même ceux qui vivent en solitaire. Dans le cas, par exemple, des putois ou des léopards qui vivent en solitaire, les marquages olfactifs indiquent à l'animal qui est passé par là, si c'est Julie ou si c'est Henri. Ces indices sont indirects. Mais chacun vit dans une partition d'odeurs où se lisent toutes les informations sur les autres. Chacun y répond d'ailleurs, afin d'éviter ou de faciliter les rencontres. Car la plupart des animaux vivent en groupe à un moment donné de leur vie. Ils partagent leur enfance avec leurs petits frères ou sœurs, s'associent pour s'accoupler et élever leurs jeunes. Les différences entre les espèces sociales et les espèces dites solitaires, ça tient donc plutôt dans la durée d'une association proximale avec leurs congénères. Lorsqu'ils sont séparés, lion et lionne se cherchent longtemps en rugissant. Un lion déplacé peut parcourir plus de 200 km pour retrouver le groupe des lions partenaires auquel il était attaché.
Ah oui, quand même. Mais les lions, contrairement à tous les félins, forment des groupes.
Alors là, on est d'accord. Bien que le nombre de lions nomades ou solitaires ou en petite ligue existe, la différence, elle est là. La formation de bandes de lions qui élaborent des petites communautés pendant quelques années. Car les lions s'associent librement ensemble. L'aptitude à capturer des proies, des grosses proies par rapport à leur propre taille, l'apprentissage de la chasse, la défense des portées face à d'autres prédateurs, tout ça, ça a conduit les lions à former un pacte de la vie sociale, qui est un pacte effectivement unique dans le monde des félins. Sous la pression des hyènes, notamment, la formation d'une coalition de lions leur permet de se défendre et de garder le statut de grands prédateurs. Les lions en groupe sont en effet presque invulnérables.
Pourtant, certains lions vivent en petits groupes intrasexuels.
Oui, les jeunes mâles, par exemple, qui sont assez matures pour quitter le groupe de naissance, se dispersent et errent en solitaire, mais parfois en plusieurs. Ils forment des coalitions de 2 ou 4 lions, souvent autour d'une fratrie, hein, c'est souvent au départ des frères, ou du moins avec d'autres lions qui leur sont familiers. Bien qu'ils capturent alors des proies de manière opportuniste, ils vont petit à petit perfectionner leur tactique de chasse, généralement à plusieurs, en s'attaquant à tout ce qu'ils peuvent tuer. Enfin, souvent, ils chassent quand même des proies beaucoup plus petites. La plupart du temps, elles font moins de 300 kilos, ce qui est déjà pas mal. Ils survivent pendant 4 à 8 ans, et ceux-là sont assez imprévisibles, car non seulement ils ne mangent pas toujours à leur faim, mais ils connaissent aussi, comme tous les adolescents, de brusques montées hormonales.
C'est à cause de leur fratrie que ces petits groupes de mâles tiennent ensemble.
Alors souvent, c'est ce qu'on dit, mais c'est surtout à cause de leur familiarité. Ils se connaissent depuis leur plus jeune âge, depuis leur enfance, et donc vont avoir développé des comportements, parfois homosexuels avec sodomie, et ces liaisons vont renforcer leurs relations dans la ligue. Mais on sait que c'est plutôt parce qu'ils sont en ligue qu'ils vont avoir ces relations-là, et non pas parce qu'ils ont ces relations-là qu'ils vont avoir une ligue. Ces conduites sexuelles peuvent d'ailleurs continuer très longtemps, même après avoir intégré un groupe de lionnes. Ça va apaiser leur frustration, et puis ça va aussi augmenter petit à petit la force de leur alliance. C'est ce qu'on appelle le côté social du sexe. Mais leur rivalité pour les lionnes n'entame pas forcément leurs amours homosexuels. En revanche, ces lions matures restent nomades et se reproduisent que furtivement dans des copulations buissonnières lorsqu'il y a des vagabondages un peu épisodiques avec des lionnes. Il ne faut pas oublier que la longévité des lions mâles est beaucoup plus brève que celle des lionnes. Ça dure moins de 12 ans, la vie d'un lion.
Mais il existe aussi des vieux lions solitaires, n'est-ce pas Thierry ?
Tout à fait juste. Ce sont généralement des lions âgés de plus de 6 à 8 ans parfois, qui ont été évincés d'un grand groupe, et ils vagabondent en solitaire ou parfois parviennent à se coaliser en 2 ou 3 mâles selon leur histoire de vie, leur âge ou leur familiarité. Mais à cause de leur âge avancé, surtout quand ils ont plus de 10 ans, ils ne peuvent pas survivre de cette manière un certain plus de 2 à 4 ans. Quoi. Et ils vieillissent alors en solitaire, jusqu'à ce que leurs forces finissent par les abandonner, bien sûr.
Les lions se rassemblent en groupes plus sociaux ?
Oui, la structure sociale des groupes de lions est très intéressante à étudier. Les lions restent souvent avec leur mère, avec leur tante et avec leur sœur, et elles peuvent accueillir des lions venus d'ailleurs. Leurs alliances sont donc très fortes, et elles repoussent les lions avec lesquels elles n'ont pas beaucoup d'affinités. Celles-ci regagneront d'autres groupes et formeront alors des couples ou des nouvelles bandes, etc. En général, 5 à 12 femelles adultes ou subadultes se réunissent et forment ensemble tout un clan qui va développer des tactiques de chasse collectives très sophistiquées où le rôle de chaque lion est très mesuré. Ce rôle peut aussi changer en fonction des besoins, de leur âge et des naissances.
Finalement, ces femelles sont donc très coopératives entre elles. Comment font-elles ?
Alors, elles sont coopératives entre elles et ça dure quand même pas loin d'une douzaine d'années. Elles communiquent à travers des mimiques très complexes, des caresses. Non seulement elles coopèrent pour des chasses collectives, mais elles élèvent aussi parfois en commun les portées de lionceaux les plus âgés. En fait, si elles produisent du lait, elles allaitent n'importe quel jeune, du moment qu'il est né dans le groupe. Et donc elles vont réaliser ce qu'on appelle un élevage communal. Elles renforcent aussi leurs liens entre elles, et avec les jeunes, avec des caresses homosexuelles, elles s'associent plus fermement avec les autres au cours de jeux de poursuite, de chasse. Les lionnes africaines ne montrent pas une grande jalousie entre elles, et elles adoptent un comportement très peu concurrent, tant que ça soit pour s'accoupler que pour l'élevage des petits.
Les lionnes pratiquent aussi des chasses collectives se distribuant les rôles.
Toutes les femelles adultes du groupe collaborent pour former une équipe assez soudée, qui souvent défend en commun chaque lionne. Et elles peuvent chasser des proies comme les antilopes, les gnous, les cobes, les zèbres, et même parfois les buffles. C'est rare qu'elles s'attaquent à des jeunes éléphants. Évidemment, ces chasses collectives augmentent la possibilité de traquer des proies plus grosses. Mais rien ne prouve vraiment que la part de viande obtenue, quand on est en groupe, va être supérieure à la part d'une chasse solitaire. Les travaux de recherche restent très contradictoires à ce propos. En revanche, ce qu'on sait, c'est que le groupe va permettre de s'attaquer à des proies beaucoup plus grosses. Les lionnes encerclent et rampent jusqu'à leur proie pour s'élancer dès qu'elles se situent à moins de 40-50 mètres de leur cible. Mais il faut qu'il y ait un couvert végétal qui les cache. Chaque lionne joue un rôle précis dans le clan. Certaines vont rabattre les proies en tentant de séparer un individu du groupe des autres proies et elles vont entraîner cet animal vers les lionnes qui sont dissimulées. Et elles vont surgir dès que la proie passe près d'elles.
C'est toute une stratégie.
Ah oui, c'est très efficace, mais ça exige une grande coordination et une coopération, puisque chacune est tributaire des autres. La proie est abattue après une morsure à la jugulaire, ou alors étouffée au niveau du museau. Les lionnes sont plus rapides que les mâles, et elles vont chasser plutôt à l'aube et au crépuscule avec une certaine réussite. Les antilopes et les gnous sont plus vulnérables, bien sûr, dans l'obscurité de la nuit, car la vision de ces ongulés est beaucoup moins efficiente dans la faible lueur nocturne, alors que la vue des lions est elle très toute efficace la nuit, comme celle d'un chat.
Et les lionceaux, ils apprennent à chasser dès leur sauvage ?
Non. L'apprentissage de la chasse s'étale sur de nombreux mois. Il y a aussi toutes les subtilités de la vie sociale à acquérir. Les petits sont sevrés à 3 mois, mais ils restent au moins 2 ans dans le groupe, en étant généralement intégrés et élevés par toutes les femelles en même temps. Les lionceaux, qui sont en général très bien traités par leur père et par les mâles du groupe, vont rester très tolérants à l'initiative. L'éducation des lions se passe avec une tolérance incroyable. Et les lions juvéniles ne vont commencer à chasser qu'entre 2 à 3 ans.
Et les mâles adultes, ils y contribuent ?
Oui, les groupements comprennent aussi des lions de mâles adultes, d'un à 5 lions, qui va assurer la protection du groupe et sauvegarde les activités sur le territoire. Ce rôle des mâles de protection du groupe et de la défense du territoire sont très importants. Les lions mâles participent aux chasses contre les proies les plus grosses, les buffles, les jeunes rhinocéros, les girafes, mais ils sont beaucoup moins rapides que les lionnes. Donc devant les antilopes ou les gnous, ils vont évidemment plus ou moins laisser la chasse. Les buffles se défendent moins et s'enfuient beaucoup plus rapidement quand un lion mâle participe à la capture. En groupe, un lion mâle, ça impressionne beaucoup plus les proies, et donc ils sont capables de s'attaquer à des animaux qui sont presque 12 fois plus gros, jusqu'à 3 tonnes. Alors que lorsqu'ils sont seuls et nomades, ils ne risquent guère à capturer des proies de on va dire 300 kg, 200 kg maximum. Les lionnes s'avèrent néanmoins beaucoup plus que des auxiliaires de la chasse. Elles vont très souvent manger les premières et se partager de manière égalitaire le butin. Bon, toutefois, quand un mâle arrive, elles vont finir quand même par s'écarter devant lui.
Mais ces mâles ne fréquentent pas les femelles seulement pour les défendre.
Non, bien sûr. Les coalitions de mâles se partagent dans un groupe. L'un d'entre eux va assurer la plupart des accouplements avec les lionnes. Parfois, ils sont deux ou trois. Mais la descendance est d'autant plus paisible que ce lion ou ces lions sont les géniteurs de cette descendance. Et donc, d'autres mâles peuvent aussi copuler avec certaines femelles du groupe. Le groupe de base va être donc matriarcal. C'est plusieurs familles avec des lionceaux qui vont pouvoir se fixer entre elles. Et l'activité principale des lions va rester la sieste. C'est comme un peu chez les chats domestiques.
C'est vrai, hein. Oui. On se repose un peu pour avoir de l'énergie. Et ces groupes ont quel rapport avec les autres groupes de lions ?
Alors, si le rôle des mâles consiste à assurer la tranquillité du groupe, chaque membre de la troupe a un emploi particulier. En général, chaque groupe reste sur un domaine d'environ 500 à 5000 km². Mais ce territoire peut glisser dans l'espace en fonction de la présence des proies. La rencontre de deux groupes de lions va donc rester rare, car les communautés évitent les autres. Mais quand des heurts se produisent, alors chaque clan va participer à échafourer jusqu'au rétablissement du calme, avec le recul d'une des deux familles. C'est souvent sur des zones de chevauchement de ce territoire partagé que les liaisons amoureuses peuvent se passer, mais aussi que des heurts peuvent arriver. Aujourd'hui, leur espace vital étant beaucoup plus restreint à cause de la présence humaine, alors ces batailles vont être évidemment beaucoup plus fréquentes.
Donc, chaque groupe se défend contre les autres et établit des liens sociaux qui restent très intenses.
Oui, ils se renforcent au fur et à mesure de leur collaboration, apprennent et se protègent mutuellement. La défense est donc souvent collective, comme la chasse. Mais ce qui est remarquable, c'est que les lionnes qui partent à la chasse ont déjà décidé entre elles quelle serait leur proie, à travers des mimiques et des frôlements sexuels. Alors elles se rassemblent à plusieurs quand elles partent pour capturer des grosses proies, comme les zèbres par exemple, tandis que pour des plus petites proies, elles vont être chassées en plus petits comités, comme les gnous par exemple. Souvent une lionne expérimentée va conduire la chasse collective, montrant comment on l'amène. Mais la structure sociale reste avant tout démocratique, comme l'a découvert Craig Parker, et qui est l'un des spécialistes du grand fauve.
Pourquoi des chercheurs comme Parker ont-ils qualifié les clans de lionnes de démocratiques en fait ?
Alors démocratique, oui, en partie à cause de la manière dont les décisions sont prises par l'ensemble du groupe. Parker montre qu'une activité peut être initiée par une seule lionne, mais la prise de décision, aussi bien pour aller à la chasse que pour trouver un endroit de repos, tout ça, ça repose sur une forme de consensus. Ou plutôt, les décisions sont prises à partir d'un certain quorum. Il faut une sorte de majorité pour entraîner le petit groupe à agir. Si la lionne décide tout seul de partir et que les autres restent sur place, il se passera rien. La décision va donc être impartiale, car chacun va avancer ses arguments en toute transparence. Et le groupe des lionnes est franchement égalitaire, sans hiérarchie. Bien sûr, la décision n'est pas obligatoirement accompagnée par celle qui y rechigne, mais à partir d'un quorum de 3 ou 4 lionnes, celle-ci s'engage alors dans une activité résolue. Les autres suivent ou ne suivent pas. Ce qui fait que même la minorité a ses droits. Par exemple, le choix de chasser de telle ou telle proie va dépendre d'une décision préalable à laquelle les lionnes s'engagent. Et elles en parlent entre elles, et lorsqu'elles partent pour chasser des zèbres, par exemple, elles ne s'arrêtent pas sur des gnous, à moins d'une occasion vraiment exceptionnelle. Elles se concentrent sur la stratégie et sur la proie choisie. On suppose que la chasse aux grosses proies, comme des buffles, nécessite que les lionnes les plus expérimentées vont être accompagnées d'un mâle qui va se joindre à la décision collective. Les prises de décision reposent donc sur de subtiles discussions entre les femelles et parfois entre les mâles, sans que l'une ou l'autre ne prenne systématiquement le dessus. Le débat y est contradictoire et l'égalitarisme des lionnes va donner une voix à chacune. Bien entendu, le quorum va dépendre après de leurs habitudes sociales, de leurs habitudes alimentaires, et puis évidemment elles vont dévorer ensemble le butin. Lorsqu'une proie est tuée, les femelles qui ont concouru à cette capture vont être celles qui mangent en premier, mais ensuite elles sont parfaitement capables de partager.
Tu veux dire que les relations de dominance ne sont pas évidentes chez les lionnes ? Il n'y a pas de reine dominante ?
Au contraire même. Craig Parker a publié plusieurs textes dans des revues scientifiques argumentant de l'égalitarisme de ces relations sociales, à partir de l'observation de plus de 560 lionnes. La structure du clan fonctionne sur une base égalitaire, et chaque lionne prend part à toutes les décisions. Il n'existe aucun signe de dominance parmi les femelles, affirme Craig Parker. Donc elles sont vraiment partenaires. La démocratie directe est ce qui qualifie le mieux l'organisation sociale des lionnes. Même le lion mâle ne peut décider à la place des femelles. Et donc il va suivre le groupe, ou de temps en temps se fera suivre par le groupe, mais jamais il pourra décider tout seul pour obliger les autres à faire quoi que ce soit. Une étude sur plus de 36 ans confirme que cet égalitarisme des groupes de lions, même si Craig Parker estime que cela reste très peu habituel chez les mammifères sociaux. Le chercheur en tire une conclusion principale. Alors il dit, les femelles de la troupe de lions forment une véritable communauté où il n'y a pas de chef et où tout le monde est à peu près pareil.
Eh ben quel beau monde!
On retrouve dans la nature, en fait, beaucoup de ces communautés égalitaires, même si Craig Parker ne les connaissait pas, qui n'ont ni hiérarchie, ni tyrannie. On retrouve ça chez les lycaons, bien sûr chez les mangoustelaines, chez les loutres cendrés. Tous ces animaux semblent privilégier des associations très franchement libertaires.
Mais quels sont les facteurs qui expliquent le partenariat égalitaire des lions?
La plupart des lions s'accouplent et mettent bas à peu près au même moment. Cette synchronisation va donc favoriser la mise en place de crèches de lionceaux. Même s'il existe un décalage des naissances, les lions ont intérêt à ce que l'ensemble des portées soit défendu collectivement. Ça leur permet à elles d'aller chasser ailleurs. Mais surtout, aussi, de se protéger contre les lions mâles qui peuvent s'emparer d'un nouveau territoire. Craig Parker pense que le grand avantage apporté par la coopération constitue l'une des raisons fondamentales de l'égalitarisme. Il serait sans doute trop difficile pour une hypothétique reine de contrôler la reproduction de toutes les autres et de se défendre contre les mâles en même temps. Alors, c'est leur statut de prédateur de grosses proies qui empêche qu'un individu puisse essayer d'imposer sa volonté à un autre. Car le coût d'un combat est bien sûr prohibitif. Les lions savent se défendre entre elles, et cette bataille leur ferait perdre l'avantage de toute la connivence qu'elles ont dans les chasses collectives, et qu'il y a besoin d'exister pour conjuguer ensemble les talents de chacune des chasseuses.
Le groupe est alors très soudé et cela fait finalement sa force. L'union fait la force, quoi.
En quelque sorte. Borrego a montré en 2020 que les lions coopèrent suffisamment bien pour résoudre des problèmes cognitifs complexes. Elles savent ainsi partager la nourriture. Mais évidemment, lorsque les lions sont en forte densité ou lorsque les lions ne s'entendent plus entre elles, eh bien, on ne joue plus leur rôle ensemble. Certaines peuvent aussi être expulsées du groupe. Les plus jeunes subadultes ou les femelles qui ont atteint leur grande maturité devront quitter petit à petit la troupe qui est devenue trop nombreuse. Si au Serengeti, la taille des clans peut dépasser les 30 individus, au parc Kruger, les groupes n'excèdent pas 5 à 6 femelles. Mais même dans les grands groupes, les animaux ne vivent pas toujours ensemble et se disloquent parfois en sous-unités qui pourront peu à peu prendre leur propre indépendance. Les lions forment vraiment le cœur de la vie sociale et restent souvent toute leur vie ensemble dans le même clan. Grâce à cette proximité et à leur tolérance, les lions finissent par être peu ou prou apparentés entre elles, de génération en génération. La vie des lions est donc totalement matriarcale et balisée par un égalitarisme très étonnant.
Effectivement. Les groupes sont donc structurés par les femelles, et elles renforcent la socialité du groupe.
Les lions s'avèrent bien plus libertaires que libertines. Voilà ce que, que je cherchais. Bien plus libertaires que libertines, parce que leur vie sociale et la forte promiscuité les soumet aux maladies aussi. La tuberculose, par exemple, leur est transmise directement par les buffles. Et la contagion fait beaucoup de victimes chez les lions. Et comme en plus ce sont des petites populations souvent très isolées les unes des autres, la contamination des lions pour diverses maladies est à la fois assez forte parce qu'il y a la régression de leurs habitats qui va concentrer les densités d'ongulés plus fortes et parce que les lions chassent des proies qui sont généralement affaiblies ou malades. C'est leur rôle écologique. Alors la perturbation des écosystèmes, bien sûr, et la très forte densité des lions dans les mêmes zones de réserve, va évidemment avoir des conséquences sur l'écologie des parasites et des bactéries. Tout ça, ça fait que ça peut se déporter sur les autres animaux et même sur les humains. Le déclin général des oiseaux communs, par exemple, va entraîner que nombre d'affections bactériennes sont reportées sur les espèces domestiques.
Oui, on sait pas du tout.
Sont reportées sur les espèces domestiques et sur les humains.
Les lions ne sont pourtant pas les seuls animaux à développer des relations égalitaires.
Non, de très nombreuses espèces animales vont former des unités sociales lâches, qu'on appelle des groupes de fusion-fission. Ce sont des rassemblements égalitaires, caractérisés par la réunion libre de plusieurs individus, pendant quelques heures, voire plusieurs semaines, dans lequel un individu s'écarte ensuite pour s'incorporer à un autre groupe, ou pour s'adonner à des déambulations solitaires. C'est par exemple comme ça chez les girafes africaines. Ces grands herbivores de la savane forment des associations libres de quelques individus à plus d'une trentaine. Elles se retrouvent ensemble pendant quelques semaines et puis elles quittent le regroupement. Le premier attroupement peut se reconstituer à nouveau ailleurs. Cette tactique de fusion-fission favorise donc une dispersion de l'exploitation des ressources, mais permet aussi une dispersion génétique en favorisant des rencontres affinitaires ou sexuelles. Ainsi, en Amazonie, les singes attelles forment aussi des alliances de fusion-fission. Ils s'agglomèrent pour consommer des fruits, mais savent aussi bien se coordonner, tant pour la protection du groupe provisoire que pour approfondir leurs relations sociales ou sexuelles. Évidemment, la communication des individus y est alors très importante. Mais les individus quittent librement la coalition sans qu'aucun leader ou qu'aucune dominance ne structure le groupe. Ça montre donc un système très égalitaire qui mène la vie sociale.
Oui, et chez les lions, il existe bien d'autres menaces pour leur survie, comme on dit.
Les lions sont toujours victimes d'un braconnage qui ne cesse d'augmenter, à la fois à cause de l'extension des terres agricoles et de l'élevage, et parce que les populations humaines se méfient des lions errants, parfois d'ailleurs à juste titre. Mais la distribution des lions s'est restreinte encore. Ils sont aussi élevés dans des parcs de tir pour les chasseurs de trophées. Il existe au moins 300 éleveurs de lions en Afrique du Sud, et on tue près de 500 lions en Afrique du Sud tous les ans.
Eh bien.
Ces parcs sont souvent alimentés par des reproducteurs enlevés dans la savane, et le commerce du tir dans un enclos commence à être maintenant dénoncé quand même par des associations pour le bien-être animal. Mais je rappelle que dans les années 70, on s'inquiétait de la survie d'espèces. Mais maintenant, ça y est, on y est. 40% des populations ont été exterminées. Et leur écosystème est tellement fragilisé que la vie sauvage est réduite à des tout petits lots où une surdensité des lions et de leurs proies apparaissent, qui évidemment va gouverner tous les malheurs des lions. En fait, partout dans le monde, les grands prédateurs disparaissent.
C'est terrible. Cependant, les lions sont aussi une source pour le tourisme et devraient être protégés dans ce sens-là, en plus.
De nombreuses associations de conservation de la nature ont raisonné de cette manière. Présenter la faune sauvage comme une sorte de trésor à exploiter. Les grands fauves sont devenus une marchandise du tourisme de masse. Mais à chaque fois, la transfiguration marchande s'approprie la nature et l'exploite en mentant. On avait déjà les zoos qui prétendaient défendre la biodiversité, les chasseurs qui allèguent gérer la nature, on a maintenant des files de voitures à touristes qui se succèdent devant des animaux à un rythme effréné. À chaque fois que les marchands transforment quelque chose en une marchandise et s'approprient la nature, ils s'en considèrent les propriétaires, et leur marché reste toujours la seule façon de s'enrichir. On vient de vendre à des particuliers deux fossiles de tyrannosaures parmi les plus complets du monde, en faisant miroiter que tout se vend et que rien n'est plus gratuit. Les pilleurs de fossiles et les marchands d'animaux, comme tous les autres commerçants, ont encore de beaux jours devant eux. La société marchande continue de s'approprier le monde. La communauté sauvage des lions ne pèsera pas lourd dans ce bilan de l'économie marchande.
Yeah, mon collabo bien bagno non na lincha galambele father color. Mon collabo bien bagno gilles na fukila de la mulalo yenyene. Me and the bad man king line what a bamba manam wale yenji gilles a gwengamba. Namasanga mukila bjuzi kula bamba nganyola chiwato azina mwe ye bamba. Ngolaba ya ye kweba muwasi pese. Kwanza wayo wano naba uka chansi. Kumusaba mami tuzi na muka dansi. Na mutala muka sonda muwonya kayaye. Yelda mulumansi nasaba mapenzi. Wanamu walala vate wanku waka kisi. Buzi buwapa mukuloza buka kisi. Vikolo njogola mutala muka bozi. Chakola misangwa mvale kupolisi. Kuhaka tibulida chika manjo ya mapenzi. Buzi buwapa mukuloza buka kisi. Vikolo njogola mutala muka bozi. Chakola misangwa mvale kupolisi. Kuhaka tibulida chika manjo ya mapenzi. Okupa wena loza kwa katina fuka mulovo. Na chukila dala katina fuka mulalo. Eya nchikiliza banange yalika follow. Yalika follow ate yalichidijulu. Kati mululu mululu okochi saja chukipulite chika manjo ya mapenzi. Yeah, Dusty kakisi. Yeka kwa tawakuru mpake no wansi. Okupa wena loza kwa katisicha kuta. Kwa gula madamu che wanko la chanzika. Newemba mugodidi mbera mkubuguta. Ani amanye dagaleri wonya batakuta. Ne wenda kupipa nze babula disikuta. Temundaba misana na chiro kutauka. Mpitiriza madumu makubo jempita. Chizivu chendi kwa sana kufuna dokita. Yeah, sana funo mudokita. King. Yeah. Buzibu wapa mkulo za buka kisi. Vikolo njogola mutole mukabozi. Chakola misango mvale kupolisi. Kuwaka tibulida chika manjo ya mapenzi. Buzibu wapa mkulo za buka kisi. Vikolo njogola mutole mukabozi. Chakola misango mvale kupolisi. Kuwaka tibulida chika manjo ya mapenzi.
C'était Kakis par King Lion.
Loin de l'image véhiculée par des notions écologiques surannées de brutalité ou de dominance, la vie sauvage s'organise toujours dans des communautés libres et consensuelles. Bien sûr, les rapports écologiques se distribuent dans des interactions qui, moralement, peuvent nous apparaître très cruelles, et le lion s'avère vraiment un prédateur redoutable. Mais son interaction prédatrice n'est pas différente de celle des hirondelles qui engouffrent des milliers de moucherons. Les relations mutuelles entre les lions se sont équilibrées au cours de millions d'années. De l'évolution et toutes les interactions du monde s'équilibrent peu à peu. Alors ce discrédit posé sur les grands prédateurs souligne bien davantage notre ignorance de la socio-écologie du vivant que la réalité d'écologie de notre planète. Les lions ont une vie sociale magnifique qui pourrait nous donner une leçon libertaire. Non seulement leurs décisions sociales s'avèrent fondamentalement démocratiques par quorum, en se fondant sur la socialité de ces fameux quorums indispensables, mais l'égalitarisme qui règne dans les groupements de lions favorise une vraie communauté où chacun assiste les autres. D'ailleurs, comme chez les lions, l'écologie évolutive nous raconte comment la sollicitude envers les autres constitue une préoccupation gagnante pour tous, alors que la concurrence exacerbée ne fait que des perdants et détruit l'intérêt de la vie sociale. Et cependant, les marchands s'appuient toujours sur cette idéologie de la séparation des personnes, en félicitant toutes les relations compétitives, toutes les exploitations fallacieuses. Au contraire, en s'organisant d'une manière résolument solidaire, nous développons notre histoire dans l'écologie de la nature en construisant une vraie vie sociale communautaire. La société des lions reflète déjà des petits morceaux de ce que pourrait être un monde libertaire. Non, la commune n'est pas morte.
Auditrices, auditeurs intrépides, vous pouvez nous contacter en téléphonant au studio ou sur l'email de l'émission sciencelibre@gmx.fr, science libre au singulier. Vous pouvez écouter et réécouter cette émission en la téléchargeant sur le site de Trou Noir. Nous avons le plaisir de vous retrouver tous les seconds lundis de chaque mois à 18h sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, pour décortiquer la biologie et toutes les idéologies qui l'accompagnent. Ainsi se finit cette émission de Science en Liberté, animée par Thierry Ledé, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. La musique d'introduction était d'Hicham Chahidi, et nous allons conclure sur « Finalement, la commune n'est pas morte » de Jean Ferrat.
Il y a 100 ans, comme un espoir mis en chantier, il se levait pour la commune en écoutant chanter Potier. Il y a 100 ans, commune, comme une étoile au firmament, il faisait vivre la commune en écoutant chanter Clément. C'était des ferronniers aux enseignes fragiles, c'était des menuisiers aux 100 coups de rabot pour défendre Paris. Ils se firent mobiles, c'était des forgerons devenus des meublots. Il y a 100 ans, commune, comme artisans et ouvriers, ils se battaient pour la commune en écoutant chanter Potier. Il y a 100 ans, commune, comme ouvriers et artisans, ils se battaient pour la commune en écoutant chanter Clément. Devenus des soldats aux consciences civiles, c'était des fédérés qui plantaient un drapeau, disputant l'avenir au pavé de la ville. C'était des forgerons devenus des héros. Il y a 100 ans, commune, comme l'espoir mis au charnier, ils voyaient mourir la commune. Ah, laissez-moi chanter Potier. Il y a 100 ans, commune, comme une étoile au firmament, il s'éteignait pour la commune. Écoute bien